Envie d'Italie. En français.
Voglia d'Italia.
Pour voir l'Italie autrement. D'ici.
Per molto tempo fui ebanista, operaio in borgo d'ogni santi. Mia moglie li faceva la modista, in questo modo tiravamo avanti. Quando la domenica era bella, ci vestivamo a festa per andare in via delle uscite tanto per fare.
Premier lundi du mois à 19h sur Fréquence Paris, pluriel, 106.3 FM.
I nostri due marmocchi impiastricciati, prendendo lieti miseri balocchi, saliva su con noi nella vettura, felici correvamo in via Chadelle, strozzati tutti quanti allo steccato, menando colpi per meglio vedere. Cercando sotto i piedi un asse e un sasso, per non sporcar di sangue gli scarponi. Venite, venite la mattina girata, lì ammirate la testa viola.
Bonsoir et bienvenue sur Fréquence Paris Pluriel. Vous êtes à l'écoute d'Envie d'Italie pour la dernière émission de l'année. Ce soir, on parlera de cinéma, et plus en particulier de cinéma documentaire, qui récemment s'est imposé comme la meilleure production du cinéma italien. Nous étions curieux de savoir comment il se porte, le cinéma documentaire en Italie. Nous savons qu'il y a une grande vitalité, mais aussi des sérieuses difficultés en termes de financement et de diffusion.
Oui, en effet, le documentaire italien se pose plus que jamais comme formidable contre-pouvoir dans un pays où les coupes franches répétées faites à la culture, ainsi que les limitations apportées à la liberté d'expression, mettent à mal la vie démocratique de la collectivité. Le cinéma du réel affronte souvent des sujets d'actualité brûlantes, voire tabous. Aucune censure ne vient altérer la créativité des auteurs de documentaires qui trouvent là un domaine d'expression particulièrement stimulant et plus accessible d'un point de vue financier.
Et en parlant des nouveaux coups durs portés à la culture, une grande manifestation des professionnels du cinéma s'est faite entendre à l'ouverture du 5e Festival international de cinéma de Rome le mois dernier. Pour la première fois depuis longtemps, on a vu manifester des ingénieurs du son, des scripts, des secrétaires de production pour protester contre les restrictions budgétaires du gouvernement en occupant le tapis rouge. Un collectif a été créé aussi, I Cento Autori, qui s'adresse au gouvernement mais aussi tout simplement au public pour revendiquer un métier qui est en même temps un art et une industrie et qui mérite une participation des pouvoirs publics plus importante et non pas d'être délaissé.
Ouais, je vais vous donner quelques chiffres. Alors, le gouvernement de Silvio Berlusconi a décidé de supprimer pas moins de 382 millions d'euros dans le secteur culturel au cours des trois prochaines années. Comme on disait tout à l'heure, plusieurs manifestations ont eu lieu ces dernières semaines pour protester contre les coupes budgétaires dont le Fonds unique pour le spectacle, le FUS, qui finance en partie de nombreuses œuvres cinématographiques en Italie. Et juste pour vous dire, l'Italie investit trois fois moins dans le secteur culturel par rapport à la moyenne européenne. On peut vraiment parler, je pense, de crise culturelle.
Et oui, tout à fait. On pourrait aussi parler de l'effondrement physique et symbolique de Pompéi. Vous avez dû en entendre parler. Le 6 novembre dernier, la Domus des Gladiateurs de Pompéi, une des pièces maîtresses de Pompéi peut-être, s'est effondrée sous les poids de la négligence et d'une terrible incurie. L'image est forte et symbolique. En Italie, le patrimoine culturel et la promotion de la culture est la dernière des préoccupations des gouvernements depuis bien longtemps. Désolée si on le répète encore une fois.
Et d'ailleurs, le ministre de l'Économie, pour justifier ses politiques, a eu le courage de rétorquer « la culture ne se mange pas ». À ce moment-là, alors un groupe de profs siciliens lui a rappelé que c'est vrai, la culture ne se mange pas, mais elle nous rend libres.
Renzo Piano aussi s'est récemment exprimé dans une interview en disant que, de par leur patrimoine culturel et historique, les Italiens sont comme des nains sur les épaules d'un géant. C'est une belle image, mais force est de constater que le pauvre géant est en train de se faire couper les jambes par le pouvoir en place, comme nous a fait remarquer Federico Schiavi, un de nos intervenants, qu'on entendra tout à l'heure.
Et d'ailleurs, si on coupe les jambes au géant, on va rester des nains, en fait. C'est ça, le problème.
Tous des nains.
Tous des nains. Comme le nain qui est déjà au pouvoir. des plus.
J'espère que non. Mais revenons donc au sujet de cette émission. Nous avons le grand plaisir d'accueillir deux invités, deux jeunes réalisateurs italiens qui se sont fait adopter par la France depuis plus ou moins longtemps et qui continuent de raconter leur pays depuis l'étranger. Lara Rastelli, bonjour.
Bonsoir.
Et Alessandro Comodini.
Bonsoir.
Merci d'être venu.
Merci à vous, oui. Et on parlera avec vous tout à l'heure de votre expérience et de vos films. Mais pour commencer...
Alors, pour commencer, en fait, et pour lancer le débat ensuite, nous avons interviewé Carlo Chatrian, qui est un critique cinématographique qui collabore avec plusieurs festivals et revues, comme par exemple Panoramiki, Duellanti, Film Critica. Il a publié des monographies sur Wong Kar-wai, Johan van der Keuken, Frédéric Weismann, Nicolas Philibert. Et voici sa vision du documentaire en Italie. On se retrouvera tout de suite après pour en parler avec nos invités.
Carlo Chatrian, tu es critique cinématographique et collaborateur avec plusieurs festivals internationaux, entre autres de documentaires, le Festival international d'Alba, le Festival de Locarno. On aurait voulu te demander de nous dresser un panorama du documentaire en Italie dans les dernières 10-15 ans, par exemple. Quelles sont ses richesses et quelles sont aussi ses difficultés à s'imposer en tant que genre à part entière ?
À mon avis, le cinéma documentaire en Italie souffre d'un manque de maîtres à penser. C'est-à-dire qu'il y a des figures qui sont importantes, genre Vittorio De Seta, qui ont eu un rôle important. Il y a eu des réalisateurs très renommés, comme Pasolini ou Bertolucci aussi, qui ont travaillé le genre documentaire, mais il n'y a pas eu un rapport de maître-élève. Ce qui fait que les nouvelles générations ont dû reformuler un langage à partir de rien, c'est-à-dire à partir d'un territoire qui était à découvrir. D'un point de vue historique, le documentaire en Italie a eu une époque où il y avait beaucoup de réalisations, surtout à cause d'une chaîne qui produisait ou coproduisait pas mal de films. C'était les années 90 avec... À l'époque, c'était Telepiù. Mais comme cette chose-là est née d'un coup d'une année à l'autre, tout a été refermé. Et dans ces années-là, il n'y a pas eu ce que je pense dans d'autres pays il y a, c'est-à-dire un réseau de production qui forme une véritable culture, un genre de langage cinématographique. Donc ça, c'est des points très, très critiques qui font que en fait, le cinéma documentaire en Italie n'est pas très, très développé, par exemple par rapport à la fiction. Ceci dit, il faut dire que ces dernières années, mais toutes ces dernières années, c'est-à-dire ces deux ou trois dernières années, il y a eu quand même des jeunes réalisateurs qui ont pris en charge le genre et qui ont réussi surtout à dépasser l'Italie, c'est-à-dire qui ont réussi à dépasser les barrières linguistiques et culturelles pour arriver à montrer leurs films dans l'Europe. En l'occurrence, c'est des gens comme Pietro Marcello qui a fait un film qui s'appelle La Bocca del Lupo, qui a gagné un festival international comme Turin, qui a été présenté à Berlin l'année passée. Un autre exemple que je pourrais donner, c'est Michelangelo Frammartino, qui avait réalisé en 2002, je pense, un film qui s'appelle Il Dono, qui avait été montré à Locarno, et après, je pense qu'il a eu un petit passage en France aussi, en salle. Et Michelangelo Frammartino vient de réaliser un film qui a été montré pour la première fois cette année, c'est-à-dire en 2010 à Cannes, qui a eu un véritable succès. Moi, je pense que ce sont deux exemples de jeunes réalisateurs, parce qu'ils sont entre les 30 et 40 ans, qui donnent de l'espoir pour le cinéma documentaire italien, bien que tous les deux ne sont pas des documentaires au sens strict du terme. C'est-à-dire que tous les deux échappent la définition du genre. Mais peut-être c'est là la véritable richesse, c'est-à-dire de trouver un nouveau langage qui partout, en général, est en train de se reformuler. D'un point de vue, disons, des documentaires plus classiques, en Italie, il y a très peu de films qui sortent en salle. Il y en a quelques-uns chaque année. Par exemple, cette dernière année, il y a eu deux films qui ont pas mal marché en salle. Un film est le film de Sabina Guzzanti qui s'appelle Dracula, qui a été montré à Cannes aussi. Et l'autre film, c'est un film qui a été montré à Venise qui s'appelle Niente Paura, de Pier Giorgio Gay, qui est un réalisateur qui réalise aussi de la fiction et qui est tous les deux, curieusement, en rapport avec la société, voire la politique aujourd'hui. La politique, c'est plus le cas, c'est plutôt le cas de Sabina Guzzanti, qui est un visage plutôt connu en Italie par le biais de la télévision. Et c'est plutôt le côté de la citoyenneté, si on peut dire comme ça, pour Pier Giorgio Gay, qui emploie un chanteur très connu en Italie pour faire une sorte de voyage autour des 30 dernières années. Ce sont des films plutôt populaires, où le langage cinématographique n'est pas poussé à ses limites, mais quand même qui ont eu un public, qui ont réussi à avoir un public et qui ont montré des choses, je pense.
Et au-delà de ces grands films, on va dire, qui ont été connus aussi au-delà des frontières, il y a quand même une grande richesse, une grande vitalité du documentaire italien. Cette année, ils sont produits plus de 200 documentaires.
Il faut voir un petit peu dans quel sens on voit les choses, dans quelle perspective. Parce que, bien sûr, il y a des festivals de cinéma, documentaires et non, où chaque année il y a des films qui sont montrés, qui sont intéressants et qui parfois dépassent encore une fois l'Italie pour arriver à être montrés dans d'autres festivals. Donc il y a le festival de Florence qui ces trois dernières années a fait un grand travail justement de mettre en réseau la situation italienne avec la situation européenne, parce que ça c'était un peu le grand problème. C'est-à-dire il y avait des films qui étaient réalisés plutôt régulièrement, mais ces films-là ne dépassaient pas l'Italie. Et un exemple que je pense très exemplaire, parce que le mot à ce propos, c'est le Festival de Turin, là où il y a une compétition de documentaires, mais qui est réservée aux documentaires italiens. C'est un peu comme les encadrer d'un petit ghetto. C'est une chose que je pense c'est très mauvaise pour le cinéma italien en général. Il faut le dire quand même, ces dernières années, il y a des nouveaux figures de producteurs, des nouveaux réalisateurs qui ont un regard un peu plutôt européen, ce qui est très bien, je pense. Donc le film de Michelangelo Frammartino, par exemple, est le fruit d'une coproduction franco-italienne-suisse. Il y a des producteurs qui sortent de l'Italie pour produire des réalisateurs à l'étranger et vice-versa, c'est-à-dire il y a des réalisateurs italiens qui sont produits par la France. L'exemple de Gianfranco Rosi, qui est produit par Les Films d'ici, son dernier film a été montré à Venise, un film très fort d'un point de vue politique et esthétique, s'appelle Sicario, je pense un très bon exemple. Si on regarde quand même la situation d'un point de vue général, on remarque quand même qu'il n'y a pas une situation uniforme, ce qui peut être anormal, mais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. D'un point de vue, je pense surtout de la production plutôt que de la réalisation.
Et quelles sont ces choses à faire pour améliorer la situation d'un point de vue de la distribution
Oui, c'est-à-dire qu'en général, ça c'est peut-être un discours plus général, les producteurs en Italie se résument à des gens qui cherchent de l'argent. Tandis que, surtout, je pense, dans le domaine documentaire, le producteur est quelqu'un qui a une importance énorme dans la construction du film, qui est quelqu'un qui est dans un dialogue continu avec le réalisateur. Non pas seulement pour définir ce qui est bon ou mauvais, ce qui est plus intéressant ou moins intéressant, ce qui peut amener à un acheteur, on dit voir un diffuseur ou pas, mais justement dans une dialectique qui est quotidienne, qui est dans cette dialectique-là que le film se construit. Il y a des situations, je pense, très importantes à ce niveau en France. Il y a des boîtes de production ou des producteurs qui font ce travail d'une façon, je pense, très, très pointilleux et aussi courageuse. En Italie, il y a quelques figures. Il y a maintenant deux ou trois sujets qui sont en train de travailler aussi sur le côté documentaire. Donc, par exemple, la Vivo Film ou une autre société qui est basée à Naples, qui est l'Indigo. Mais ce sont des exemples. Tandis que pour la plupart des cas, c'est le réalisateur lui-même qui doit chercher de l'argent ou bien qui doit intéresser un producteur pour que lui donne un peu d'argent. Mais ça se résume à ça. Tandis que c'est vraiment un problème de culture, je pense. Mais c'est normal, puisque c'est très difficile de voir les documentaires en Italie. Donc ça, il y a des retombées à tous les niveaux. Au niveau du public, les documentaires n'ont pas énormément de public, sauf si c'est Michael Moore qui les fait. Il y a des problèmes dans les écoles. Si on suit un cours de cinéma dans une université quelconque, bon, c'est très rare, voire rarissime, de voir un documentaire qui est pris comme exemple. Donc c'est vraiment, je pense, un problème de culture.
Tu es à cheval entre l'Italie et le monde francophone, la France et la Suisse. Est-ce que tu vois, de ton point de vue, une sorte de spécificité du documentaire italien, une spéciale attention à certains sujets ou une particularité de style, peut-être?
Je ne sais pas. Mais je pense que si on prend le documentaire pour son sujet, en fonction de son sujet, on n'arrivera pas à avoir une solution. C'est-à-dire, si on prend un documentaire par la force d'un sujet, on retombe dans la question justement du contenu, et alors on est plutôt du côté de la télévision, qui prend justement des histoires fortes, des personnages forts, et peu importe comment ils sont montrés. Bien sûr, les histoires sont importantes plutôt que le sujet, mais la façon dont les histoires sont racontées, c'est tout aussi important.
On est d'accord.
La France, je pense que, bien que ces dernières années, j'ai pas remarqué des grands films français qui sont sortis en salle, documentaire, il y en a, mais pas, à mon avis, un des films les plus forts et aussi populaires de cette année est un film réalisé, produit en France, mais réalisé par un réalisateur chilien qui est Patricio Guzman. Et là, c'est vraiment la force de ce film, c'est au langage plutôt qu'au sujet. Bien sûr, il y a le sujet politique, bien sûr, il y a la beauté des images du ciel, il y a la beauté du paysage du désert, mais la force du film tient à son langage, au langage que Patricio Guzman a trouvé pour mettre ensemble les histoires qu'il voulait raconter. Donc, et je pense que c'est là vraiment la chose à faire. Je pense que il y a quand même des choses intéressantes qui peuvent se construire autour du documentaire, donc dans le territoire qui est entre documentaire et fiction. Il y a des réalisateurs de la fiction, comme le réalisateur de la Sardaigne, Méréo, qui a réalisé un film avec des jeunes qui a été montré à Venise, qui est entre justement le documentaire et la fiction. Le film s'appelle Tajabon. Il y a deux réalisateurs autrichiens qui, là aussi, travaillent entre les deux. Et ces deux films-là, par exemple, sont sortis en salle. Donc, c'est des exemples intéressants. Je pense que la France est intéressante comme structure, comme modèle aussi d'un point de vue des lois, du financement. Ça, c'est un modèle très intéressant. Mais c'est aussi vrai qu'avec la crise économique d'aujourd'hui, le cinéma est vraiment peut-être le dernier des soucis pour l'État italien. Et le cinéma documentaire, peut-être encore moins. Donc il faut trouver d'autres solutions dans d'autres réseaux. Là aussi encore, peut-être, il y a des possibilités au niveau des régions. Il y a des régions qui financent d'une façon continuelle avec des stratégies bien précises, les documentaires. Le Piémont, par exemple, dans le sud, la Sicile vient d'ouvrir un centre expérimental pour le documentaire. Donc il y a des choses qui bougent. Il faut peut-être attendre encore un petit peu pour voir les résultats.
Je me questionne souvent sur l'importance des festivals et parfois je trouve que le seul danger, c'est de parler à un public qui est déjà sensible et comment arriver plus loin qu'un festival, aussi populaire que soit-elle.
Ouais, mais je pense que c'est quand même déjà important d'avoir un public, bien que réduit. Si ce public-là est sensible, c'est déjà quand même important, parce que faut toujours essayer d'arriver à parler au plus grand nombre possible. Mais si pour faire cela, il faut changer de langage, réduire les choses qu'on dit, voire les changer, alors c'est mieux de parler à un plus petit nombre, mais parler d'une façon correcte. Ça arrive tout le temps que, justement, en fonction des autocensures qu'on se donne, on perd de vue le but, ce que je disais avant. Je pense que c'est une réflexion qu'on faisait à Florence avec des producteurs français aussi, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas seulement lié à l'Italie. Je pense que quand même, il y a un problème de génération, c'est-à-dire que la salle de cinéma est liée à une génération qui est plus âgée par rapport aux jeunes. Les jeunes qui ont entre 10 et 20 ans, ils vont très rarement au cinéma. Ils ont un autre rapport à l'image. Ce n'est pas qu'ils ne regardent pas les films, mais ils les regardent sous d'autres outils. Donc c'est pour ça qu'ils ne connaissent pas du tout le documentaire, parce que le documentaire ne marche pas sur d'autres réseaux comme Internet. Les jeunes adolescents ont, regarde le film avec le download. Et donc, il faudrait quand même trouver le moyen de leur faire downloader, télécharger les documentaires aussi. Parce que sinon, on n'arrive pas à les rattraper. Mm-hmm. C'est une chose qu'on remarque aussi dans les festivals. Mm-hmm. Bien sûr, il y en a une petite partie, mais si on prend le public moyen, c'est plutôt des gens de 40, 50, voire 60 ans qui vont au cinéma regarder ces films-là. Et donc là, c'est vraiment une question de rapport avec un endroit qui est un endroit peut-être lié au passé, la salle de cinéma. Je sais pas. C'est un peu dommage, mais
c'est une proposition
que je fais, que je partage avec d'autres gens.
Federico Schiavi.
Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Fréquences Paris Pluriel, 106.3 FM, et vous écoutez Envie d'Italie. On vient d'écouter une interview un petit peu longue, mais je trouve très intéressante avec Carlo Chatrian, qui est, comme on disait tout à l'heure, un critique cinématographique italien. On est là en studio avec deux réalisateurs, Lara et Alessandro. Bah, on profite de vous. Je vois que vous avez pris des petites notes. On vous demande un petit peu qu'est-ce que vous avez pensé de cette interview. Il a touché pas mal des points intéressants, mais peut-être il y a quelque chose qui vous a fait réfléchir plus, qui vous a frappé.
Moi, j'aime bien ce qu'il dit sur le langage. En fait. Déjà, je trouve que c'est une interview très, très riche. Mm. Et je trouve que c'est vrai que les sujets, l'histoire est important, mais ce qui compte vraiment, c'est comment cette histoire elle est racontée. Et je pense que c'est là où après on arrive à une difficulté dans la production, c'est que la spécificité de ces langages fait que ces types de documentaires qui ont une approche différente, qui ont un vrai regard, ne sont pas achetés ou produits par la télévision. Donc il y a, en Italie je connais peu, mais je pense qu'en France il y a une...
Voilà, il y a le même problème.
D'uniformité, ouais. Oui. Si on enlève des grands documentaristes qui continuent tout de même à être produits. Et encore, par exemple, le film qu'il cite de Nostalgie de la lumière de Patricio Guzman, c'est un film, d'après ce que je sais, qui a été très difficile à monter, financièrement parlant, et qui a, à mon avis, à moi, qui est raconté d'une façon unique. Je trouve que le montage de ces films est vraiment extraordinaire
qui mérite d'être vu.
J'ai envie de dire, c'est un montage. Il n'y avait que lui qui pouvait trouver une façon de tisser avec une telle poésie et puis un tel sentiment aussi, trois choses différentes et faire que... Comment dire, que ça soit limpide. Mais ces films-là, déjà pour sa durée, c'est difficile de faire des films comme ça pour la télévision.
Qu'est-ce que tu en penses, toi, Alessandro?
Ouais, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est vrai que l'interview de Carlo était très intéressante, très dense. Et c'est vrai qu'il a touché des questions qui me touchent tous les jours, un peu dans mon travail. Et c'est vrai que c'est un peu... c'est un peu... De faire des cinémas, ça devient un peu un geste comme ça. Ou bien on le fait pour la télévision, parce qu'on peut trouver de l'argent et du coup toucher beaucoup de gens, des téléspectateurs. Ou bien on essaye de garder son propre langage, sa propre originalité. Et du coup, comme il disait... c'est des films pour les cinémas, quoi. Et donc on touche un public de vieux.
Limité,
C'est des questions que je suis en train de me poser.
Et c'est marrant aussi, parce que vous êtes quand même en France et vous remarquez la même problématique en fait, même d'ici.
Et moi, c'est bien beau d'être dans des festivals. Je trouve ça. Très bien, on voit des films souvent très intéressants, mais après, en fin de compte, il faut aller travailler ailleurs et d'une autre façon, ou avoir un autre métier, ou faire des documentaires qui ne nous ressemblent pas pour pouvoir vivre. Et voilà, enfin, il citait Pasolini, il disait que finalement, on s'est auto-censure.
Parce qu'on sait qu'il faut être rentrer dans une grille et tout ça. Et je me souviens d'un film de Pasolini, un documentaire que j'adore qui s'appelle Comizi d'amore, où Pasolini s'est censuré lui-même. Donc c'est un voyage en Italie, c'est à propos de l'amour, et c'est dans les années 60. Et chaque fois qu'il sait qu'il y a quelque chose qui va de toute façon lui être censuré, ben, il met un bip. Et c'est génial, parce que la censure, elle est présente, c'est très fort. Voilà.
D'ailleurs, il y avait un autre point qui m'avait beaucoup interpellée, c'était justement la relation entre producteur et réalisateur de films documentaires. Je pense qu'il l'explique très bien en disant voilà, qu'en Italie, les producteurs cherchent plutôt l'argent, mais on voit que peut-être ce n'est pas seulement en Italie. Et je voulais savoir, par rapport à votre expérience...
Que ce soit aussi un interlocuteur.
Oui, voilà, cette idée d'un producteur qui dialogue constamment avec le réalisateur.
Dans mon cas, par exemple, j'ai ma propre maison de production en Belgique. Comme j'ai tourné en Italie pour mon dernier film...
On en va parler tout à l'heure en plus.
Ouais. J'ai voulu quand même avoir un producteur italien. Et bon, malgré le fait que, comme on dit, effectivement, les producteurs italiens, sont, surtout les producteurs de documentaires, ont des difficultés, ben c'est vrai que les seuls vrais interlocuteurs de production que j'ai eu, c'est un producteur italien. Qui ne peut pas vivre de ce qu'il fait, qui ne peut pas vivre en tant que producteur. Il gagne son argent ailleurs en faisant d'autres boulots. Mais c'est vrai que son envie de faire du cinéma, ça l'a poussé à aller ailleurs, me rencontrer, donc venir en France... rentrer dans des réseaux aussi plus européens. Donc, du coup, il est obligé d'avoir toujours sa valise sur lui et partir tout le temps.
Et là, tu parles de Paolo Benzi, non, de Faber Film. Mais tout à l'heure, on va parler. Peut-être tu veux pas poser quelques questions à Lara.
Oui, Lara, on voulait d'abord te présenter un tout petit peu. Tu es née à Rome, mais tu vis et travailles à Paris depuis 20 ans. Tu es arrivée très jeune.
22.
Tu as réalisé plusieurs films documentaires. Le dernier en date, c'est Nisida. Cette fois-ci, je ne me trompe pas. Nisida, grandir en prison, sur une prison pour mineurs près de Naples. Il a été présenté au cinéma du réel. C'est là que je l'ai vu et j'ai beaucoup aimé. Peux-tu nous raconter un peu de ce film et éventuellement des difficultés que tu as rencontrées pour pouvoir le réaliser? C'est un film qui a pris longtemps pour se construire.
Oui, ça a pris longtemps parce que j'ai voulu prendre mon temps pour le faire. Voilà. C'est un film qui parle du parcours de trois jeunes qui ont 16-17 ans à l'époque où je les ai rencontrés et qui sont dans la prison pour mineurs de Nisida. Et je les ai suivis entre mars 2003 et... avril 2005, je pense. Ouais, c'est ça. Et puis c'était un film qui naissait, on va dire, d'un questionnement philosophique sur la prison et en particulier sur le paradoxe de vouloir éduquer un enfermant. Parce que ce qui raconte la Constitution italienne, c'est que, d'ailleurs la française aussi, je crois, c'est que la peine doit être une rééducation du détenu. Et donc voilà, j'ai fait deux repérages, je suis rentrée en contact avec les directeurs de la prison, on a fini par obtenir des autorisations, on a fini parce que j'avais une production, je tiens à le dire, parce que j'ai eu vraiment un grand appui par mes producteurs, donc par Étienne Chambol et Christophe Fulcher de Flight Movie, aussi bien artistique qu'économique. Sauf que les jours où on a obtenu ces autorisations, c'était comme si on nous disait « ne tournez pas les films », parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans les cellules, on ne pouvait être que dans des espaces communs. Et surtout, on n'avait pas les droits de filmer...
Les visages.
Oui, on était tenus à respecter l'anonymat des gamins.
Donc ça a été un peu un coup dur, mais finalement, les contraintes qui ont été posées à notre équipe, à notre film, ont fait aussi que les regards s'est construit autour de ces contraintes. Donc on a fait des ateliers avec ces enfants, on a amené quelqu'un pour les aider à construire des masques qui sont devenus et qui sont tout au long du film leur visage. Et puis on a continué. C'était très difficile de les approcher, c'est-à-dire que j'ai rentré un peu à boîte fermée. C'était la direction de la prison et l'équipe pédagogique qui choisissaient les enfants avec qui j'allais travailler. Ce qui est très dur pour quelqu'un qui a envie de faire un film, parce que c'est ce qui compte, c'est l'humain, c'est les gens avec qui... c'est les êtres humains, et puis ça suppose de s'entendre avec eux, ça suppose que leur histoire t'intéresse, et ainsi de suite. Et puis finalement, on les a rencontrés avant de filmer. J'ai passé 3 semaines avec eux à les aider à faire un documentaire sur les chefs cuisiniers de la prison, qui était une personne exceptionnelle. J'en avais eu l'intuition, mais c'était encore mieux de ce que j'avais supposé. Et c'était une façon pour moi de raconter ce qu'après j'allais faire avec eux, qu'on ne soit pas complètement dans les flous. Et puis, on a continué à travailler avec eux par atelier. Après les masques, on a enchaîné sur une maquette de la prison qui n'apparaît pas dans les films, mais qui était une façon pour nous de pouvoir nous balader dans la prison. Donc on prenait des côtes, on faisait des dessins, on faisait des croquis, et en faisant ça, ça aidait à développer à quoi ça sert une école dans une prison, à quoi ça sert un atelier de jardinage, parler de foot, enfin voilà, un peu tout ça, quoi. Et c'est un film qui s'est fait avec une économie des moyens, mais tout de même, on a une aide à l'écriture. Voilà, je crois que la grosse différence entre l'Italie et la France, c'est que malgré tout, il y a des aides plus fortes en France qu'en Italie. Donc voilà, on a une aide à l'écriture, on a eu les COSIP qui a un fonds de soutien donné à des producteurs qui ont déjà diffusé des programmes à la télé. Et on a eu la ProCIREP, qui est une subvention qui va au scénario. Mais comme on a travaillé très, très, très longtemps, c'est clair que
ça suffisait pas.
C'est pas que ça suffisait pas, c'est que tous les techniciens, la monteuse, moi-même, les producteurs aussi, parce qu'ils étaient en partie aussi techniciens dans l'histoire, chacun a donné de son temps et de son travail pour qu'on puisse avoir un film. Et finalement, on en est content parce qu'il a fait beaucoup de festivals. C'est un film qui a été beaucoup vu. Mais il n'a jamais été à la télévision. Et je pense qu'il n'y a pas la place. Déjà, c'est un film qui dure 1h30. Et je crois qu'en France, il y a une case d'une heure et demie. Et donc, voilà, déjà, c'est
mort au début.
Oui, en même temps, il a fait 2h20. Je l'ai trouvé bien. Et en même temps, c'était aussi les problèmes de festivals. C'était pareil pour les festivals. Il fallait faire quelque chose que les gens puissent... puissent voir.
Mais donc j'imagine que comme beaucoup d'autres films sur l'Italie faits ailleurs, il n'a pas été vu en Italie, mis à part peut-être les jeunes et la prison et quelques festivals.
Non, à la prison il n'est jamais passé, malheureusement. Non, il a été vu à Alba, au festival de Alba, il a été vu à Salina, il a été vu dans 3-4 festivals en Italie. Et puis voilà quoi. Il a été vu à Naples plusieurs fois, dans des écoles aussi. Et ça, je pense que c'est important. Par exemple, je trouve que les films de Guzman, ça serait bien de les passer dans les écoles. Enfin, je trouve qu'il y a des documentaires qui...
On espère qu'il y a des profs qui écoutent cette remarque.
Alors, habituellement, tu travailles plutôt dans la fiction en tant que script, à la télévision et au cinéma. Comment ça fonctionne chez toi, ce binôme documentaire-fiction ? Est-ce que l'un nourrit l'autre quelquefois, quelque part ?
Oui, forcément, ça les nourrit parce que, voilà, déjà, si je n'étais pas script, je ne pourrais pas faire des documentaires que j'ai envie de faire.
Ça les nourrit, c'était le bon mot alors. C'était vraiment là.
Mais après je ne sais pas, c'est peut-être parce que j'ai un pied dans l'un et un pied dans l'autre, je ne sais pas, tendance à voir une grosse dichotomie entre les deux. Évidemment, la fiction, ça s'est fait avec un argent vraisemblable par rapport au documentaire. Mais après, voilà, tout à l'heure, j'ai parlé d'atelier. L'atelier, c'est mise en scène. C'est pas du cinéma direct. C'est quelque chose que nous, on a créé pour pouvoir trouver une approche avec Enzo, Rosario et Samir, donc avec ces trois gamins, pour parler d'une façon concrète.
Pour parler du cinéma aussi.
Pas forcément pour parler des cinémas, mais c'est il y a du documentaire où on dit qu'on, voilà, les gens passent devant la caméra ou font des choses devant la caméra. Non, dans Isida, il y a une partie partie des mises en scène. Déjà, créer des ateliers pour simplifier ou pour faire que cette communication avec eux soit probante, soit intéressante, soit faite à partir d'éléments concrets, c'est mise en scène. Il y a dans les films une séquence où justement j'avais vraiment envie de parler de cet article de la Constitution qui dit que le but de leur peine, c'est d'être rééduqué. Donc j'ai parlé avec une maîtresse d'école, parce qu'ils sont obligés d'aller à l'école, en lui disant, est-ce que ça vous intéresserait de faire une leçon sur cet article de la Constitution ? Elle a trouvé que c'était une super idée, et on a fait une leçon sur ça, qui est d'ailleurs une de mes séquences préférées dans un film. Voilà, ça n'existait pas. C'est nous qui l'avons créé. Mais malgré tout, même l'ITV la plus simple du monde, même une ITV sur fond noir, c'est de la mise en scène, parce que ça pourrait être sur un fond jaune ou sur un fond de mer ou sur...
Mais après, c'est toujours difficile de définir ou de cloisonner le cinéma entre documentaire et fiction, mais c'est pas non plus la mise en scène qui va nous faire dire que tel ou tel film n'est pas un documentaire.
Ah, pas du
peut-être
tout.
Qu'on devrait même pas perdre du temps.
Non, mais c'est pas. Je sais pas. C'est en fin de compte, oui, c'est cloisonné parce que c'est un cinéma de série B. Moi, j'ai série B. J'ai même pas envie de prononcer ces mots, voilà. Moi, je sais que si j'avais 10 films amenés sur la Lune, il y a au moins un ou deux documentaires.
Seulement.
Non, mais je sais pas. J'ai jamais fait ni les calculs et puis j'ai pas envie de partir sur la Lune seulement avec 10 films. Mais voilà, je pense que il y a des très grands documentaires, il y a des très grands films de cinéma, entre guillemets. L'un nourrit l'autre, forcément.
D'ailleurs, c'était intéressant, parce que Chatrian, justement, parlait de cette frontière qui est plus là, et a cité des exemples de...
Voilà, oui,
des réalisateurs qui mélangent maintenant.
La Boca del Lupo, que j'ai vu récemment, c'est un documentaire avec un langage propre.
San Martino con le Quattro Volte, lui aussi. Ça... Bon, peut-être on ferme cette première partie et on va passer à un petit peu de musique pour se reposer et tout. Et je pense que vous avez remarqué, pas vous parce que vous ne le connaissez pas, mais les auditeurs, oui, notre collègue Jonathan n'est pas là.
Jonathan, tu manques.
Voilà, on l'embrasse de loin. Et c'est donc Steven qui est à la technique, qui est notre sélectionneur musical attitré de ce soir. Et il nous offre un hommage à Ennio Morricone, tout particulier. Il va nous expliquer un petit peu.
Bonsoir, buonasera.
Buonasera.
Jonathan absent, j'avais carte blanche pour pour m'occuper de la musique ce soir. Et bon, je voulais un peu coller au thème. Je me suis dit, bon, film, documentaire, Italie, et, ça me laissait peu de choix, en fait. Alors, j'ai supprimé le documentaire. J'ai gardé film et Italie.
On ne peut pas réagir.
Et là, Ennio Morricone m'est apparu comme inévitable, l'homme aux 500 musiques de films. Alors, c'est un peu beauté en touche, me direz-vous ?
Ouais, un petit peu.
Alors, je vous promets que je ne vous passerai ni Le Bon, la Brute et le Truand, ni Il était une fois en Amérique, Il était une fois dans l'Ouest, et autres succès, grands succès d'Ennio Morricone, mais plutôt une forme d'hommage avec... on va commencer par une adaptation de John Zorn, le saxophoniste et compositeur new-yorkais, qui en 1984 décidait de s'attaquer à ce monstre, cette influence inévitable pour lui, Ennio Morricone, dans un disque donc d'adaptation entièrement dévoué au grand maître. Et disons qu'il le fit très respectueusement de la forme et avec un grand travail sur le son. Donc on retrouve tout ce qui fait un peu la musique d'Ennio Morricone, la tension, les nerfs à vif, le suspense, les guimbardes.
Là, tu nous donnes envie de l'écouter, là, parce que...
les petits bruits, les bruissements, tout est là dans... Et aussi les guitares électriques, parce que n'oublions pas que Morricone a souvent utilisé et a un peu introduit les guitares électriques dans la musique de film, et pour donner un aspect vraiment très mettre les nerfs à vif. Donc on retrouve ça dans cette adaptation de Peur sur la ville. Film d'Henri Verneuil. Donc il y a un rythme très répétitif et un peu lent au piano. je suis un peu long.
Ouais, voilà.
Alors je vais abréger et on retrouvera toute la clique new-yorkaise du Lounge Lizard. Alors Artolinse et ses guitares triturées, Tim Bern et son saxophone déjanté, et Anton Fier, le métronome, à la batterie.
Thank you.
Alors, après cette petite pause musicale, je ne vais pas répéter tout ce que vous avez déjà entendu. J'ai oublié en plus. Mais nous continuons à parler de documentaire en Italie en écoutant une autre interview très intéressante de Federico Schiavi, qui est un producteur indépendant et président de DocIt, qui est une association de documentaristes italiens qui regroupe tous les professionnels du secteur. Alors, je vous explique un petit peu mieux le rôle de cette association. En fait, elle coordonne et promoit l'activité des structures de production et des auteurs-réalisateurs, mais aussi elle cherche d'aider au développement et à la sensibilisation au cinéma documentaire. Et voilà, dans cette interview, nous nous sommes intéressés à son travail au sein d'une coopérative de producteurs, comme je disais, Sud-Ouest. Sud-Ouest, voilà, qui fait beaucoup parler d'elle, et grâce à de nombreux films réalisés en Italie et dans le monde. Là, on l'écoute.
Schiavi, tu sei presidente di DocIt e
Federico Schiavi, tu es président de DocIt et producteur indépendant. Pourrais-tu nous présenter ton parcours?
Sì, sono un produttore indipendente, un piccolo produttore indipendente.
Je suis un petit producteur indépendant. Je fais partie d'une coopérative de producteurs. J'ai commencé il y a une dizaine d'années en tant que monteur et ensuite je me suis pris de passion pour le documentaire et j'ai commencé à m'aventurer dans la production de documentaires avec mes associés. C'était une aventure plutôt compliquée qui a suivi le déclin des investissements de la télévision italienne et de l'État sur le documentaire en général. Donc ça a été des années plutôt difficiles, mais on a réussi à s'en sortir et à continuer de produire des films assez importants. Et justement, pour entrer directement au cœur du problème, quelles ont été en ces 10 ans les difficultés que vous avez rencontrées? Je dirais qu'il y a eu une concurrence de deux causes principales. D'une part, l'augmentation du nombre de diffuseurs de contenu avec la multiplication des chaînes de câble, mais d'autre part, une énorme baisse des coûts de production et donc de la recherche.
Audiovisivo da un lato, dall'altro però l'abbattimento dei costi e anche della qualità della ricerca.
Donc le système productif italien a facilité les productions à très bas prix, très rapide dans la fabrication et très souvent de mauvaise qualité.
Produzioni a bassissimo costo, piuttosto veloci.
C'est une tendance générale, il y a bien sûr des exceptions, mais si on regarde comment on travaillait par le passé, il est évident qu'aujourd'hui c'est bien plus difficile.
A guardare il tipo di produzione, come si lavorava un po' di anni fa, e si guarda come si lavora adesso, è evidente che tutto risulta un po' più complicato.
D'un autre point de vue, il faut dire que cette difficulté a poussé plusieurs structures de production à sortir des frontières, à s'internationaliser et aussi à réfléchir à des parcours de production et de distribution alternatifs et autres par rapport au système télévisuel. En parlant d'internationalisation, je remarquais que le site internet de votre collectif de production est uniquement en anglais. Combien compte la relation avec le reste de l'Europe et du monde dans la production de vos documentaires?
Quanto riguarda la produzione dei vostri film.
Diciamo che il fatto che il sito sia soltanto in inglese.
Le fait que le site soit seulement en anglais est plutôt une triste constatation. La relation entre une structure indépendante de production et les interlocuteurs italiens n'est pas si compliquée, parce qu'il s'agit de seulement 4 ou 5 entités à contacter. Donc le fait d'avoir de la visibilité grâce à un site internet en Italie n'a pas grande importance.
Come produzione indipendente in Italia attraverso un sito internet ha abbastanza poco senso. Se si vuole.
Mais si on veut maintenir sa propre indépendance et produire des contenus qui aient une originalité de style et de forme, on ne peut pas ne pas regarder à l'étranger.
La loro dignità anche linguistica, anche di ricerca, non si può che guardare.
Notre structure de production a beaucoup travaillé sur des documentaires qui racontent l'Amérique latine, les Balkans, le Moyen-Orient, et on cherche toujours à raconter des histoires qui soient comme des ponts, qui puissent être intéressants pour qui habite ici en Italie, mais aussi pour un public plus ample.
Si cerca sempre di essere un po' di raccontare delle storie ponte che quindi possono essere interessanti sia per chi vive qua in Italia sia per un pubblico più vasto. Voi mi chiamate dalla Francia, ecco, la Francia.
Vous me contactez depuis la France, un pays qui est particulièrement fier et attentif à sa propre culture et qui a fait le choix, même s'il est de plus en plus remis en question, de supporter la culture d'une façon incomparablement plus importante qu'en Italie.
A supportare la propria cultura e questo riguarda anche gli audiovisivi, se si facesse il rapporto tra quanto i francesi
Si on osait faire une comparaison entre combien les Français investissent dans les produits audiovisuels de qualité et combien investit l'Italie, ce serait bien embarrassant.
D'altra parte, tu parlais d'une certaine originalité. Mancano.
D'autre part, tu parlais d'une certaine originalité. Il manque des bases structurelles de financement à la production et à la distribution. Mais il est vrai qu'il y a une grande vivacité du cinéma documentaire en Italie. Un grand investissement humain. Faire du doc en Italie, c'est presque de la militance. Et on remarquait que, plus qu'ailleurs peut-être, le documentaire est lié à des thématiques sociales, à l'engagement, à la dénonciation. Quel est ton avis là-dessus?
Più forse che altrove, come se fosse un bisogno. Che ne pensi?
Certamente,
justement, qui fait du documentaire en Italie fait un métier qui pourrait s'appliquer à d'autres secteurs de l'audiovisuel bien plus rentables, comme la télévision.
Potrebbe essere applicato ad altri settori dell'audiovisivo ben più profittevoli.
Si ces professionnels se concentrent sur le documentaire, c'est par passion, parce que c'est un choix économiquement très difficile. Et justement, ces dernières années, c'est devenu une évidence, le fait que le documentaire n'est pas un choix de répit, c'est au contraire un choix conscient et souvent un choix d'engagement politique et citoyen.
Et
je vois en tout ça la raison principale de l'augmentation de la qualité des documentaires italiens de ces dernières années et en termes quantitatifs aussi du nombre de documentaires d'un certain niveau d'exigence.
Quantità notevole di documentari intelligenti ben fatti.
Tout ça est dû à une grande passion collective et citoyenne. C'est quelque chose que l'on peut constater en allant d'ailleurs dans des nombreux festivals en Italie et en Europe.
Nei numerosi festival che ci sono in Italia ma anche in Europa, perché poi vedo che anche in Europa girano dei bei film italiani, dei bei documentari italiani, insomma. Questo senz'altro. Non so quanto potrà durare, perché comunque.
Je ne sais pas par contre combien cela pourra durer, parce que l'appauvrissement général de la société civile en Italie s'accélère et la marge pour créer des contenus alternatifs de qualité est de plus en plus réduite.
Alternativi sono sempre più ridotti.
Et allo stesso tempo.
Au même temps, en ce qui concerne la distribution au moins, il me semble qu'il y ait des chemins plus expérimentaux. Ici en France, nous avons principalement la télévision et le cinéma comme canal de diffusion. En Italie, il y a énormément de projections dans le milieu associatif. Certains films ont une vraie et propre distribution uniquement dans le milieu associatif. Et ensuite, il y a la vente de DVD accompagnée à des livres ou à des journaux. Ce n'est pas une façon de trouver des solutions coûte que coûte pour que ces films soient vus, si par ailleurs ce n'est pas possible.
Un modo di trovare una, ecco, una diffusione se altrove non è possibile. Sì.
On parle là de phénomènes assez différents les uns des autres. La diffusion dans le monde de l'édition concerne une autre catégorie de documentaires. Ceux qui ont essayé de publier des documentaires complexes d'un point de vue de style et de contenu, en général, ont eu des résultats très décevants.
Appartiene a categorie differenti di documentari, quindi c'è una certa editoria.
Par contre, des documentaires de type plus télévisuel a plus de succès dans les librairies. Il faut aussi dire que ce type d'édition est aidé au niveau fiscal, mais ce type de vente est quand même très marginal. La vente de DVD de documentaires en Italie n'est pas un chemin à succès, surtout ces dernières années.
Più televisivo, che generalmente ha anche fortuna in edicola. Altra questione invece è la diffusione nei circuiti alternativi.
Autre chose en ce qui concerne la diffusion dans des circuits alternatifs. Le milieu associatif en Italie est très important et très diffus, et c'est un milieu en perpétuelle quête de contenu. Et le documentaire, en ce sens, c'est un des meilleurs instruments pour amener du contenu pour ceux qui veulent avoir des informations, échanger des points de vue, dialoguer sur le monde et sur l'actualité.
Chi faccia parte di un'associazione voglia avere informazioni, notizie o scambiare punti di vista sul mondo, su quello che accade. Quindi quello certamente è un circuito estremamente interessante.
C'est donc un circuito très actif e intéressant, bien che economicamente peu rémunérateur.
Non è certamente
ce n'est pas le milieu associatif qui pourra sauver la production indépendante.
La produzione indipendente. Però può dare un senso.
Mais il est vrai que ce type de diffusion donne du sens au travail d'un documentariste qui le fait, comme on disait avant, surtout par une profonde motivation.
Lavora per una profonda motivazione, quindi è chiaro che nel momento in cui un lavoro riesce ad avere una circolazione, una diffusione ampia, gran parte del motivo per cui uno sforzo è stato fatto.
Dans ce sens, le circuit des associations est un cercle virtueux.
In questo senso, il circuito delle associazioni è un circuito virtuoso. Siamo come associazione dei documentaristi recentemente.
Avec Dokit, en tant qu'association de documentaristes, on cherche de supporter la distribution cinématographique du documentaire avec grand succès.
Sta andando bene questo esperimento. Cioè, noi stiamo constatando che il pubblico va in sala a vedere i documentari e ci va numeroso.
On constate avec joie que le public va en salle pour voir du documentaire. C'est un public nombreux, attentif, fidèle. C'était un défi risqué au départ, mais qui est un gros succès, parce que le public italien, malgré 20 ou 30 ans de massacre télévisuel berlusconien, continue d'avoir envie et nécessité de bons contenus et de langage plus fin et moins agressif de ce que l'on voit quotidiennement dans les télévisions.
Alternativi e di fluidi di linguaggi anche più evoluti, meno brutali di quelli che si vedono quotidianamente nelle televisioni.
I vostri progetti per il futuro?
Abbiamo una troupe che torna domani dal Cile, ha seguito i famosi minatori e il dopo, quando si sono spenti i riflettori, hanno raccontato cosa succedeva dopo.
Nous avons un projet sur la fondation de la ville de Togliatti Grad en Union soviétique, du nom de l'ancien dirigeant du Parti communiste italien, ville qui fut un curieux monstre hybride construit par l'URSS de Brezhnev et par la Fiat avec la collaboration de nombreux ouvriers communistes italiens. On travaille à un projet sur les évangiles, une reconstruction orale des évangiles, telles que des personnes d'extraction sociale très différentes s'en souviennent. C'est en train de devenir un travail à cheval entre le profond et le grotesque.
Et
on se demande aujourd'hui si l'ouvrir à l'international ou le garder au niveau italien. Encore un projet sur trois ouvriers de la Fiat qui ont été licenciés pour des raisons disciplinaires suite au mouvement de protestation. Ils ont eu un parcours de diffusion de l'information sur les raisons de leur licenciement. C'est un travail intéressant que l'on fait avec les archives audiovisuelles du mouvement ouvrier, avec des archives très intéressantes qui n'étaient jamais sorties des tiroirs. Enfin voilà, on a beaucoup de choses.
Mostra
oui,
molto bene il lavoro
dei
che
progetti
fate.
È significativo. L'enumerazione dei bien la natura de votre travail
è significativa. Vi ringraziamo moltissimo.
Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Fréquences Paris Pluriel 106.3 et vous écoutez Envie d'Italie. On commence la deuxième partie de l'émission après avoir écouté Federico Schiavi. C'est aussi très dense son interview, je trouve. Il y a pas mal des choses qui sont dites. J'ai remarqué quand même que le point de vue d'un critique cinématographique et d'un producteur est très différent. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est beaucoup plus réaliste et aussi pessimiste, même si il remarque des choses positives. Je trouve que sa vision des choses est quand même pessimiste, je trouve. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez.
Oui, ben, c'est vrai que les critiques font des analyses sur la base des films qui existent. Et les producteurs sont là en train de galérer pour faire vivre des films ou faire en sorte qu'ils existent. Donc, c'est vrai
qu'ils connaissent aussi tous ceux qui n'existent pas, qui ne peuvent pas exister à cause des problèmes productifs et tout ça.
Non, c'est très intéressant, mais c'est vrai que c'est un peu pessimiste et ça ne donne pas beaucoup d'espoir pour l'avenir, parce que si l'avenir du documentaire peut se calculer que sur la base de projections dans des associations, dans des centres sociaux où il y a un public assez ciblé, quoi. Et surtout non commercial, quoi. Ça veut dire que les cinémas documentaires n'existaient pas.
En plus, nous, on était un peu naïfs avec Daniela. C'est vrai que d'ici, on ne connaît pas les rouages du mécanisme productif. Et, on pensait, par exemple, la vente en librairie, c'est super et tout. Les associations, c'est super. On dit oui, tout ça, c'est super. Mais en réalité, ça ne suffit pas à faire vivre des projets documentaires.
En même temps, je pense que c'est intéressant de s'interroger justement sur d'autres moyens de diffusion. Parce que voilà, c'est
comme Internet, par exemple, aussi, Chatrian on avait dit.
Oui. Mais lui aussi, il dit que finalement, enfin, Chatrian, il disait qu'il n'y avait pas des publics pour les documentaires.
Au cinéma.
Au cinéma, oui. Ouais.
Mais lui, il dit le contraire. Mais je pense qu'il y a un public. Après il faut travailler ces publics. Parce que, en effet, il est un peu endormi par des années de télévision terribles. Parce que voilà, mais, je ne sais pas. Je pense qu'il y a. Je pense à un réalisateur italien qui a lancé une souscription pour produire des DVD.
Il n'y en a pas qu'un, hein, il y en a plusieurs.
Et donc, il demandait un engagement à 10 euros à chacun. Et une fois qu'ils avaient rejoint les 500 copies, et ben, ils allaient presser les DVD et puis, et puis les vendre.
Oui, c'est
quelque, ouais, quelque part, je trouve que c'est une façon de dire que ton travail ne tient pas à la diffusion dans un festival ou
C'est aussi une façon de se dire on se débrouille tout seul. C'est ce qu'on appelle les productions dal basso qui commencent à arriver aussi ici. On fait des appels aux dons ou à la participation ou à la coproduction, ils appellent comme ça.
Le préachat en fait, c'est préacheter les DVD.
Ça, je suis pas d'accord.
Voilà.
Mais ça c'est des préachats.
Et
pourquoi tu n'es pas d'accord justement?
Parce que je pense que ça fait partie de l'engagement de d'autres personnes que de faire la chose.
Après, bien sûr, après, c'est un dernier recours. Hein, c'est...
Ouais,
mais c'est surtout le problème de tout ce qui est aussi milieu associatif, ou, par exemple des ONG. On dit, voilà, il y a ça, pour ça l'État peut se désengager. Ou, voilà, je trouve que c'est un côté positif, mais il y a aussi un côté négatif.
Risqué.
C'est risqué, ouais, je suis d'accord.
Oui, et puis ça, de toute façon, ce n'est rend pas un métier viable, quoi. Hein, si on attend des gens qui puissent participer à un film, déjà on ne sait pas quand on va tourner, et puis on gagnera jamais
suffisamment d'argent.
Suffisamment d'argent pour pouvoir vivre avec, quoi. Oui, on peut peut-être faire un film. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants ou des jeunes qui font des sites et les gens mettent 1 euro ou 2 pour pouvoir faire les films. À la fin, ils auront un budget de 500 euros, mais bon.
Quelque part, ça cautionne les discours de dire voilà que la culture ne nourrit pas, donc on coupe. On coupe les fonds.
Et on n'a pas le droit de réclamer de l'argent pour...
Ouais.
Pour
ça.
Oui. C'est une question qui, je pense, restera ouverte. Et par contre, on veut continuer l'émission pour parler un petit peu avec Alessandro. Et de ton film, en fait, tu as réalisé un premier court-métrage documentaire, Jagd Fieber, La fièvre de la chasse, un film qui a eu beaucoup de succès dans les festivals. Elle a été aussi présentée à la quinzaine des réalisateurs. D'ailleurs, l'histoire est très rigolote, il faudra que tu nous racontes. Et tu travailles maintenant à un autre film, Giacomino. Tu es en train de terminer le montage. Et ce film, tu l'as tourné dans le Frioul. Et on voulait un petit peu savoir l'histoire de... Soit l'histoire de comment ton premier film est arrivé à Cannes, mais après, très vite, parler de ton deuxième film, plutôt.
Ouais, ben c'est vrai qu'on ne peut pas parler du film que je suis en train de faire, Giacomino, ou L'Estate di Giacomo. Peut-être aujourd'hui, ça s'appelle comme ça.
Okay. C'est, L'été de Giacomo, ok.
Quand je suis en train de les monter, alors ça change souvent selon la vision. Mais c'est vrai qu'il faut parler du court-métrage... D'abord parce que sans ces courts-métrages, je crois que j'aurais pas pu faire les films que j'ai fait, que je suis en train de faire maintenant. Et voilà, donc moi j'ai un parcours un peu bizarre, c'est-à-dire que j'ai décidé d'abord de partir de l'Italie. Et ensuite, peut-être c'était un peu inconscient, mais je voulais faire du cinéma. Et petit à petit, voilà, j'ai continué à l'université, puis je suis rentré à l'école de cinéma en Belgique. Et c'est là que j'ai découvert justement du cinéma documentaire, parce que pour moi, le cinéma documentaire, c'était de l'information, en fait. C'est ce qu'on appelle les reportages. Et voilà, là, j'ai découvert toute une tradition de cinéma et d'une histoire des cinémas qui dialogue avec le cinéma de fiction, qui est le cinéma documentaire. Et ça m'a beaucoup plu, effectivement. Et j'ai décidé de faire un documentaire comme mon film de fin d'études. Voilà.
Ça a été pas difficile. Ça a été quand même difficile de le présenter. C'est ça que tu nous avais raconté.
Ou quoi, les films à l'école. Ouais. Oui, c'était un peu compliqué parce que justement l'école aussi, comme toute institution, c'est ça a une tendance formative. Donc il faut rentrer dans des cases là aussi en vue d'un métier possible dans le futur après l'école. Donc on nous apprend à écrire les dossiers, les scénarios, à réaliser, enfin, plein de choses. Et donc on essaye de nous mettre dans des cases, et voilà. Donc forcément, c'était un peu compliqué de présenter un projet comme ça, qui en soi c'est un sujet comme un autre. Hein. Donc ça parle de la chasse, donc en France, et j'ai décidé de suivre deux chasseurs. Voilà. L'école voyait pas très bien ce que je voulais faire, évidemment, et donc. Finalement, on m'a laissé quand même les faire. Après, je l'ai fait. Et puis, il n'a pas plu. Et puis, voilà. Mais je l'ai fait quand même. Et après, la grande surprise, c'est que ça a été pris à Cannes. Donc, la surprise en premier de moi-même. Et puis, de tout le monde, je pense.
Voilà. Qui va peut-être changer, comment dire, l'approche de l'école. Qui sait ? Pour le documentaire, tu feras un peu histoire. Ah, il y a eu un jour un jeune qui, avec un documentaire, était...
Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas le premier à aller dans un grand festival dans l'école, mais c'est vrai que je suis le type qui un peu s'est faufilé entre les mailles.
Surtout avec un film qu'il ne cautionnait pas au départ.
Oui, c'est un peu ça. Donc pour eux, c'est un peu compliqué de les reconnaître, mais... Bon, c'est des histoires personnelles.
Heureusement, sur FPP, on peut dire tout ce qu'on veut. On n'est pas crypté, on n'est pas censuré.
Non, mais maintenant, à cette époque-là, je leur en voulais beaucoup de m'avoir fait autant galérer. Mais finalement, c'était bien parce que ça m'a donné quand même une force, l'envie de le faire. Et puis, voilà. Et puis, je me suis resserré sur mon sujet, sur la façon de le faire surtout. Voilà, donc c'est là que j'ai compris, effectivement. Donc là, les rôles de l'école, c'était assez formatif. Donc c'est là que j'ai compris que il fallait faire ce que j'avais envie, comment je l'entendais. Et voilà. Et puis, bon, la sélection, ça a confirmé ça, en fait, tout simplement. Après, c'est rien, en fait. C'est juste un cachet sur un DVD, puis c'est tout.
Qui peut aider pour la suite, surtout.
Qui peut aider pour la suite, je pense, oui. Bon, grâce à ça, j'ai eu ensuite un prix, un matériel. Donc, j'avais du matériel illimité, tant que je voulais. Puis voilà. Donc, j'ai décidé tout de suite d'enchaîner sur un autre film.
Ah, maintenant, je comprends. Je connaissais
l'histoire des belles lignes. 50 volumes.
Voilà. Mais c'est grâce à ça, c'est grâce à ces films-là que j'ai continué. Et puis bon, c'est vrai que à l'école on apprend des choses, mais puis on n'apprend pas énormément finalement. Donc c'était un parcours d'apprentissage aussi. Donc j'ai mis presque 2 ans à tourner mon premier film. C'est parce que je cherchais aussi la bonne façon de le faire, et aussi des financements parce que c'était pas si évident. Même si l'histoire, donc
c'est quoi l'histoire justement ?
L'histoire, c'est l'histoire d'un garçon sourd de 18 ans qui décide de se faire opérer pour entendre. Donc c'est un implant, c'est une opération dans le cerveau, enfin dans l'oreille interne. Donc ça existe. Donc moi je voyais ça comme un miracle, et j'ai écrit un dossier là-dessus. Et donc dans les thèmes un peu du passage à l'âge adulte, avec les sons et tout ça. Et donc le sujet en soi, c'est un sujet de documentaire assez classique qui a déjà été fait, je pense. Et donc ça a marché, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même beaucoup de bonnes réponses au début. Des aides à l'écriture, des choses qui m'ont permis de quand même de survivre et de pas travailler dans un bar, par exemple. Donc des aides à l'écriture, et puis comme j'avais ma petite structure de production en Belgique, j'ai continué comme ça, je me suis lancé, et puis je me suis aperçu que effectivement, pour faire un film, il fallait beaucoup plus d'argent. Voilà, donc je me suis appuyé sur un sur un producteur italien, donc Paolo Benzi, qui m'a beaucoup aidé. On a eu d'autres bonnes réponses, donc l'aide de la région du Frioul, parce que ça existe, ça aussi.
C'est la Friuli Film Commission. Ouais. On rigolait de ça la dernière fois. Toutes ces aides régionales sont nommées en anglais en Italie. Et c'est très... Bon, c'est significatif, c'est rigolo. La Lazio Film Commission, la Napoli Film Commission.
C'est ça. C'est comme si c'était quelque chose qui n'appartenait pas...
À la tradition italienne.
Ouais, c'est ça. Bon, donc ça s'est fait un peu dans la douleur, dans plein de... Bon, même si on s'est bien amusé quand même. Donc voilà, on a réussi à les tourner. Et maintenant, on est en montage. Voilà. Mais le film a beaucoup changé depuis, parce que c'était l'histoire d'un garçon sourd qui retrouve Louis, etc. Et finalement, il n'a pas retrouvé Louis. Et donc, voilà. Donc, j'ai cherché une forme pour ça. J'ai tourné pas mal dans différents formats, en vidéo, en pellicule, en super 8. Voilà. Et finalement, le film sera que en pellicule. Et voilà. C'est un film que j'avais pas prévu. Peut-être que c'était les films dont j'avais envie. Donc, j'en suis assez content.
Et là, en fait, tu as un producteur français aussi.
Oui. Alors, comme j'habite en France, donc, on a cherché un producteur français. Bon, c'est une productrice. Et voilà.
Et ça se passe bien, ces relations entre...
C'est parfois pas très facile, parce que donc, nous, en Belgique, c'est un collectif.
Notre d'ailleurs, structure. Je voudrais que tu m'en parles un petit peu. C'est les films nus, c'est
les
ça.
Les films nus, ouais. Voilà. Et donc, film nu comme un film qui va droit au but. Voilà. Film sans fioriture, quoi, sans artifice. Voilà. C'était un peu un truc comme ça, débile.
Qui tu as créé avec des amis de l'école.
Qu'on a créé ensemble avec des copains. Parce qu'on avait tellement peur de la fin de l'école. Alors, on s'est dit, bon, on crée un truc pour rester tous ensemble. Et voilà, donc c'était pas facile justement de passer du statut d'étudiant après à un statut où tu peux faire un peu tout avec de l'argent et puis tu sais pas trop comment les gérer. Donc voilà, on a eu quand même besoin de personnes qualifiées, de métiers quoi, pour pouvoir nous guider là-dedans. Et voilà, donc on est parti quand même de ces collectifs-là. Et ensuite, on a rencontré Paolo. Qui est un producteur dont la société a siège dans le Frioul, donc, dans cette région du nord-est de l'Italie. Mais ça restait quand même, ça avait quand même des dimensions assez petites, artisanales. Et puis, une fois qu'on est arrivé en France, on a commencé à parler des télévisions, pré-achat, coproduction, etc., chose que je ne voulais pas du tout. Et ça nous a un peu
détourné
un peu. Ça nous a fait faire un petit détour productif, c'est-à-dire que j'ai commencé, comme j'ai tourné en même temps que j'écrivais pour chercher de l'argent, j'ai commencé à maquiller mon projet, à les réécrire pour pouvoir avoir de l'argent de télévision. Chose qui n'a pas du tout marché, parce que quand on montrait des images après, c'était clair que c'était pas un film pour la télévision, mais on a quand même perdu beaucoup de temps et du coup ça nous tient jusqu'à maintenant on attend toujours quand même une réponse en Belgique. Mais c'était quand même assez compliqué de ce point de vue là parce que il fallait quand même de l'argent, mais les télés voulaient pas parce que c'est un format très long, voilà, c'est une heure et demie peut-être, on sait pas. Et alors, il n'y a qu'une case, c'est la Lucarne sur Arte, les dimanches soirs à minuit, etc. Donc, voilà, c'était impossible.
Bon. Mais il va sortir quand même le film en mars, il va sortir quand tu vas le terminer.
Ah ben ça, on ne sait toujours pas. Non, le film est presque fini, donc on a presque fini le montage image. Et là, maintenant, on ne sait pas trop parce que, bon, on essaye d'aller dans les festivals, donc essayer de profiter de cette histoire de Cannes, peut-être... parce que voilà, ça donne justement une crédibilité. Peut-être ils verront le film différemment, je sais pas. En tout cas, voilà, essayez quand même de passer par des bons festivals. Parce que le film, oui, effectivement, donc comme je suis jeune, j'ai pas fait de film, donc c'est compliqué de trouver aussi une distribution au préalable. Les télés, ils en veulent pas, donc il faut absolument passer par un bon festival pour pouvoir essayer de le diffuser, quoi.
Ouais. Avec l'espoir de le distribuer en cinéma, donc.
Ouais.
On croise les dents, enfin, ça touche du bois. Mais...
enfin, d'abord en cinéma, et puis on verra à la télé si ça marche, pourquoi pas. Hein, mais...
Après coup.
Ouais, c'est un film, finalement, on s'est aperçu que c'est un film pour le cinéma.
Enfin, malgré toi.
Non, je pense que c'est tout ce que j'ai toujours rêvé, évidemment. Enfin, une école de cinéma, on rêve de tourner une pellicule, on rêve de tous ces trucs-là. Voilà.
Peut-être une petite dernière question à Lara, parce qu'on ne t'a pas demandé si tu avais des projets, mais vraiment en une minute, si tu as un projet sur lequel tu travailles pour le futur, toi déjà, si tu veux en parler, sinon...
J'ai un projet qui vient de tomber à l'eau.
Ah ouais,
ok. Mais ça ne m'empêchera pas d'en avoir d'autres, j'espère.
En tout cas, c'était très enrichissant de vous avoir ici, d'avoir parlé du film documentaire. Et on espère d'avoir d'autres occasions de se voir et d'approfondir la thématique, peut-être parler d'autres projets, d'autres films après tout ça. Et là, on va passer un petit peu de musique aussi, toujours avec notre Steven, qui présente le deuxième morceau, mais très, très brièvement, je pense.
Je vais tenter de faire plus court cette fois-ci.
Absolument.
Alors, après avoir botté en touche avec le premier morceau, je réengage cette fois-ci donc avec une composition qui n'est pas d'Ennio Morricone, mais d'un autre grand admirateur après John Zorn d'Ennio Morricone, de Mike Patton. Alors Mike Patton, il a dans une autre vie, il était chanteur de Faith No More, et depuis c'est un peu un homme aux mille projets qui a un petit peu une vision très, très cinématographique de la musique, plus considérée comme un espace sonore. On retrouve beaucoup de grincements, beaucoup de petits bruits qui viennent s'ajouter aux compositions, et des transitions très, très surprenantes. Enfin, tout ça, c'est très, très cinématographique. Et en 1995, avec sa bande d'hommes masqués, les Mr. Bungle, d'Eureka dans l'Oregon, ils avaient sorti ce disque incroyable, épuisant et inépuisable, Disco Volante, 50 disques en un. C'est incroyable.
Et qu'est-ce que tu nous passes ?
Et
voilà, il faut qu'on lui trouve une émission spéciale.
Et donc je vous passe Violenza Domestica, donc de Disco Volante.
Ma sempre così. mais io non sono una persona che...
Federico Schiavi de Dokit en parlait tout à l'heure dans son interview. Donc, on voulait vous présenter un projet très important créé par Dokit qui s'appelle Cinema Doc, il documentario in sala. C'est le premier projet italien qui vise à créer un circuit de distribution en salle dédié au cinéma documentaire. Nous en avons discuté avec Riccardo Biadene, qui est un des initiateurs. La toute première expérience, c'est un projet pilote, a lieu depuis le mois d'octobre dernier à Rome sous le nom de Festival Circuit, au cours duquel une dizaine de films documentaires issus des meilleurs festivals sont proposés dans trois salles de la capitale, trois fois par semaine, pendant deux mois, et le public est au rendez-vous. Et on y verra peut-être un jour le film d'Alessandro, l'année prochaine.
Avec plaisir.
Le projet a vocation à grandir et à s'étendre à tout le territoire national à partir de l'année prochaine. Et voilà, saluons donc cette initiative assez géniale qui va nous faire avancer.
On espère. Et toutes les informations, vous pouvez les retrouver sur notre site. Avant de vous saluer définitivement, je voulais vous inviter, si vous pouvez, aller voir un film d'une Italienne, on est en thème, dans le cadre du procès historique de la dictature chilienne qui aura lieu à Paris du 8 au 17 décembre 2010. Il y aura une projection du film d'Emmanuel Anelli le mercredi 8 décembre 2010 à 21h. Et le titre du film est « Las piedras no se mueven solas »,« Seules les pierres ne bougent pas ». Je vous raconte un petit peu le film. Alors, depuis les collines des Playa Ancha, Valparaíso, des hommes et femmes nous racontent l'histoire de leur lutte frontale contre la dictature dans les années 80. Des ouvriers, des étudiants, des femmes ont vécu une jeunesse de résistance entre rêves de liberté et répression militaire. Ils nous disent l'histoire d'une génération. mémoire vive d'une lutte toujours d'actualité. Alors, je ne vous ai pas dit, en fait, la projection se tiendra à la Maison d'Amérique latine, 217 boulevard Saint-Germain, de l'O 7e à Paris, métro Solferino, rue de Bac. Alors, je répète, Las Piedras no se mueven solas, le 8 décembre, à la Maison d'Amérique latine. Et je tenais à dire que la projection est organisée par l'Association d'ex-prisonniers politiques chiliens de France, voilà, qui vous invite à cette projection. Et sur cette note positive, on arrête ce soir. Et par contre, on vous invite à nous écrire si vous avez envie, en fait, de proposer des thèmes pour les émissions de l'année prochaine. On a plein d'idées, mais bon, on est quand même ouvert à d'autres suggestions. Et on tenait encore à remercier les invités, Alessandro Lara d'avoir participé, aussi à les personnes qu'on a interviewées par téléphone, et aussi à Steven à la technique et à la musique, et Jonathan qui est loin, mais je suis sûre qu'il nous écoute, on espère. Et aussi, on va peut-être donner le blog.
Juste, oui, l'adresse de notre blog où vous pourrez retrouver tout ce dont on a parlé dans l'émission. Donc, c'est Envie d'Italie, tout attaché, et encore attaché après FPP Radio. Donc, Envie d'Italie, FPP Radio.wordpress.com.
On essaie d'ouvrir un nouveau blog bientôt.
Oui, et chez Arte Radio, voilà. On va grandir.
Parce qu'on n'est pas trop content de celui-là. Mais en tout cas, vous pouvez retrouver toutes les anciennes émissions à télécharger. Voilà. Alors encore merci Alessandro et Lara.
Merci.
Et à très bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Ciao.